Bonjour à tous et à toutes. Merci Françoise de nous permettre de nous rencontrer et de travailler à plusieurs équipes. Donc ça, c'est quand même une occasion rare et très intéressante. Comme il se doit, j'ai préparé un petit PowerPoint, si ça vous convient. Je vous propose de l'ouvrir. Je suis d'accord, un PowerPoint un peu chargé, mais il faut que j'améliore mes compétences dans ce domaine. Donc, qui concerne donc quelques minutes concernant l'analyse de l'activité professionnelle. Alors, je parle évidemment. Enfin, je vais avoir un point de vue large sur la question et à certains moments, lors des deux journées, nous aurons l'occasion, je pense, de préciser les choses. Je voudrais peut-être pour commencer vous engager à prendre un petit peu de recul par rapport à l'expression analyse de l'activité et pourquoi pas on pourrait rajouter évaluation, mais c'est surtout, c'est, pas en termes de définition, mais en termes d'utilisation sociale. Je me suis dit, finalement, je ne me sentais pas la capacité d'aborder cette question sans faire un petit détour, un peu sous la forme d'une prise de recul, peut-être analyse un peu plus critique, pourquoi on parle tant d'analyse de l'activité, qu'on l'appelle ainsi, ou analyse du travail. J'ai mis évaluation entre parenthèses parce que je laisse à Anne évidemment la possibilité d'intervenir sur ce terrain. On n'en parlait pas réellement il y a une trentaine d'années, une quarantaine d'années, l'analyse de l'activité, l'analyse du travail, oui, bien sûr, puisqu'il y a toute une tradition, on pourrait dire, qui a commencé avec le taylorisme, d'une certaine façon, l'organisation scientifique du travail. Mais moi, je me suis dit, finalement, il y a deux points de convergence. Pourquoi on parle tant d'analyse de l'activité aujourd'hui, dans tous les secteurs? Ça ne concerne pas que le secteur de l'enseignement ou les pratiques enseignantes. C'est probablement parce que ça renvoie à ce qu'on appelle souvent un nouveau paradigme social. Enfin, il y a quelque chose d'un peu nouveau aujourd'hui, quand même. C'est que... il y aurait plusieurs façons d'interpréter les choses, mais en restant relativement neutre, on peut constater que on met en valeur les personnes, leur parcours, ce qu'elles sont capables de faire, ce qu'elles sont capables d'apprendre de ce qu'elles font, donc leur développement. Et finalement, il y a de façon ambiante quand même l'idée qu'il faut savoir se prendre en charge, développer par soi-même son activité, et parfois un peu à la place du rôle traditionnel des institutions. Donc on est obligé de se dire finalement, quand on utilise l'expression analyse de l'activité dans le discours social, il y a en arrière-fond quand même probablement des enjeux de cet ordre-là. Et puis on pourrait dire que ça croise également l'apparition, si je voulais faire écho et utiliser le même vocabulaire, probablement que ça s'inscrit également dans ce qu'on pourrait appeler un nouveau paradigme scientifique. Je ne sais pas si le mot est approprié, mais d'une certaine façon, il y a deux choses intéressantes, il me semble. Alors on pourrait compléter, évidemment, mais la première, c'est que on cherche, et ça c'est vrai dans plusieurs champs disciplinaires, on cherche des outils. On cherche à produire des outils pour rendre plus visible l'activité. Alors certains parleraient du réel de l'activité, qui n'est pas l'activité réalisée, j'en parlerai tout à l'heure. Bref, essayer de rendre visible tout ce qui, a priori, n'était pas de l'ordre du visible. Alors, on peut se demander, on peut se dire, c'est très utile, et je pense que c'est très utile, surtout si on le croise avec la seconde intention, qui consiste à mieux comprendre, et je crois que c'est un enjeu aujourd'hui, je sais pas ce que vous en pensez, mieux comprendre comment au fil de l'activité, finalement, on apprend, on se transforme. Et c'est vrai que jusqu'à une période qui n'est pas si lointaine, on ne s'intéressait pas du tout à la façon dont l'activité était une occasion d'apprentissage et de développement. Donc probablement que là, ça donne une portée importante aux travaux concernant l'analyse d'activité, essayer de repérer finalement comment l'activité est aussi une occasion d'apprentissage. Finalement, d'une certaine façon, considérer qu'il n'y a plus une séparation nette entre formation et travail, mais que on pourrait presque dire sous forme de boutade qu'on se forme en travaillant et qu'on travaille en se formant aussi. Donc on est dans de l'activité dans les deux cas. Et ça, je crois que d'une certaine façon que c'est une chance, parce que ça donne plus de force au travail que nous faisons dans le vaste champ de l'éducation et de la formation. On peut se demander jusqu'où. Par contre, il faut aller dans le fait de rendre visible l'activité, parce que là, il y a des enjeux sociaux aussi. Je voulais juste, bon, sans aller plus loin, je voulais juste mentionner ce point en introduction. Alors, bien entendu, ce qui va m'intéresser maintenant, c'est de mettre en lien, ou plutôt de définir peut-être, ou de donner quelques éléments de contour qu'il faudra préciser, que l'on pourra discuter par la suite, s'agissant du mot analyse et comme préalable ou articulé à l'évaluation, évidemment. Si j'osais quelques propositions de définition, on pourrait dire, juste pour caler un peu les choses, analyser, alors il y a plusieurs façons de procéder, hein, bien sûr, mais on pourrait dire que c'est d'abord d'écrire, mais c'est pas suffisant, d'écrire quelque chose, une réalité, probablement la décomposer. La façon de décomposer est aussi importante, et probablement aussi le fait d'en analyser, il y a le fait de se référer à un modèle d'analyse, et j'en reparlerai tout à l'heure, qui va permettre de faire parler finalement ce qu'on a sous les yeux. La difficulté, si on veut dépasser évidemment la simple description, et si on veut aboutir non pas à une explication, enfin moi je ne le formulerai pas comme ça, mais on peut avoir plusieurs façons de voir les choses, mais à une compréhension de cette réalité, il faut probablement à un moment ou à un autre utiliser un modèle d'analyse existant. Pourquoi cette différence entre expliquer et comprendre ? On en reparlera, je pense, pendant ces deux journées, mais derrière la question de l'explication, il y a probablement l'idée qu'il y a une seule bonne explication, alors que la compréhension, il y a plusieurs grilles possibles. Et on voit bien que pour l'analyse, il y a de nombreuses grilles permettant d'étudier l'activité. Et il y a plusieurs façons d'en livrer une compréhension. Le mot activité, alors là, il y a plusieurs... moi, j'ai fait au plus simple, hein, vous m'excuserez, mais... Enfin, j'espère. Mais on pourrait dire, c'est ce que l'individu fait. Alors, une fois qu'on a dit ça, on pourrait avoir l'impression d'avoir tout dit, mais ça reste entier. La première différence classique qui a été faite, c'est la différence entre le travail prescrit, sans parler d'activité, parce que c'était plutôt la notion de travail dans les démarches d'analyse du travail, entre le travail prescrit le travail réel. Donc on pourrait dire que l'activité, c'est ce que fait effectivement quelqu'un en réponse ou pas à une prescription externe. Hein. Donc il y a une prescription venant d'une institution ou une auto-prescription. C'est-à-dire qu'il peut aussi, on peut aussi s'obliger à soi-même de faire quelque chose. Et donc ce que l'on fait effectivement, ce que l'on fait effectivement dans une situation relève de l'activité. Ce qui est peut-être à séparer de la notion d'activité ou du mot activité renvoyant à l'activité, vous savez, les activités avec les enfants, par exemple. Hein. C'est une partie de l'activité d'un enseignant, par exemple. L'activité étant quelque chose probablement de plus... Alors là, il y a plusieurs conceptions et plusieurs définitions possibles, avec des frontières plus ou moins, enfin des limites plus ou moins importantes entre activité et autres mots, je pense à pratique, par exemple. Certains disent également que l'activité, c'est le point de vue de quelqu'un d'extérieur sur ce que fait quelqu'un d'autre. C'est-à-dire que finalement, et c'est un peu la différence et c'est une différence qui est assez présente aujourd'hui dans les travaux entre activité et action. L'action étant plutôt le point de vue que la personne a à propos de ce qu'elle fait et ce qu'elle fait, et l'activité étant plutôt le point de vue de ce qu'un tiers, par exemple un chercheur, mais ça peut être quelqu'un d'autre, un évaluateur, ça peut être quelqu'un d'autre aussi, tient à propos de ce que fait une autre personne. Du coup, vous pouvez mettre en relation analyse et activité, donc c'est, pour faire simple et probablement trop rapide, on pourrait dire qu'il y a l'idée de choisir un modèle d'analyse et un mode d'accès, j'en reparlerai tout à l'heure, pour faire parler le matériau recueilli à propos de l'activité en question. Alors, deuxième point, on voit bien que l'analyse doit être, du coup, outillée. Il est difficile de dépasser une simple description de ce qui nous intéresse, d'une réalité qui nous intéresse, si on n'outille pas notre regard. Et là, il y a plusieurs façons d'outiller. Alors, je voudrais, sans rentrer trop dans le détail, dire qu'il y a des modèles d'analyse très différents disponibles pour outiller notre regard. Et qui repose probablement sur des épistémologies différentes, c'est-à-dire sur des façons différentes de concevoir ce qu'est la réalité de concevoir ce qu'est la réalité. On pourrait dire que la plupart, il me semble, peut-être que je fais erreur, on verra dans les deux jours, mais je pense que la plupart des courants et des travaux relèvent plutôt d'une épistémologie qui est ce qu'on peut appeler l'épistémologie constructiviste. C'est assez courant aujourd'hui de considérer que finalement la réalité n'existe pas indépendamment des personnes, mais elle est le produit d'une construction sociale. C'est-à-dire que ça a plein d'incidences, on en reparlera sans doute, s'agissant du mot compétence, par exemple. Est-ce que c'est une propriété intrinsèque des personnes ou est-ce que c'est... ça fait partie du lexique social, une construction sociale, mais qui renvoie à une autre réalité qui est probablement plus l'activité. Et il y a deux façons de voir probablement les choses dans ces épistémologies constructivistes, au moins deux, c'est de considérer que l'activité est à chaque fois singulière, ou presque à chaque fois singulière, c'est-à-dire à chaque fois c'est une rencontre particulière, et là nous avons plusieurs courants et plusieurs travaux qui existent, entre un individu et une situation. C'est ce qu'on peut appeler ce sont des modèles d'analyse qui relèvent de ce qu'on peut appeler l'épistémologie constructiviste, phénoménologique, excusez-moi pour les termes un peu barbares, mais vous pouvez les laisser parce que c'est la raison pour laquelle je les ai mis entre parenthèses. Et puis, on peut aussi considérer que l'activité renvoie plutôt à des régularités. C'est-à-dire qu'on peut l'analyser en termes de régularité. Et donc là, ça renvoie peut-être plutôt à une épistémologie de type structuraliste, entre guillemets. Alors, si on s'intéresse au premier champ, ECP voulant dire épistémologie constructiviste phénoménologie. Vous avez des travaux... J'ai pas mis d'ordre. Enfin, évidemment, fallait bien commencer par un. Ça n'est certainement pas une présentation historique. Vous avez les travaux relevant de la clinique de l'activité, des auteurs que vous connaissez peut-être. Je ne sais pas si vous connaissez, par exemple, les travaux d'Yves Clos, qui se situent bien là, qui considèrent plutôt que. Globalement, il me semble, on rangerait assez bien ça dans une épistémologie de type, phénoménologique, l'activité, elle est dirigée, ça veut dire quoi? Ça veut dire, je développe simplement quelques éléments de ces approches pour donner à voir les modèles d'analyse différents. L'activité est dirigée, ça veut dire qu'elle est sous l'influence, finalement, notamment des pairs ou, de ceux qui constituent la profession ou le métier et qui ont une tradition ou des façons de faire qui constituent un peu la culture professionnelle. Alors ce qui est intéressant si vous regardez certains travaux de cette approche et notamment des travaux récents, c'est que s'agissant des enseignants, il y aurait, un désajustement du genre. C'est-à-dire qu'il y a une crise du genre chez les enseignants. C'est-à-dire qu'il y a des difficultés à définir comme ça des repères qui feraient consensus entre les pairs et donc qui pourraient faire l'objet d'une transmission finalement de certaine façon. L'activité, elle est adressée, c'est une façon de voir les choses, effectivement, c'est-à-dire qu'on n'agit pas, on ne fait pas tout à fait de la même façon selon l'interlocuteur, selon les contraintes sociales, etc., pour faire simple. Et puis, la clinique de l'activité fait une distinction intéressante entre le réel de l'activité et l'activité réalisée, c'est-à-dire ce que l'on regarde de quelqu'un, enfin de ce que fait quelqu'un à un certain moment, ne correspond peut-être pas à la réalité de l'activité qu'il est capable ou qu'il met en place, puisqu'il y a aussi ce que l'approche appelle, enfin ce que Yves Clos appelle l'activité empêchée. C'est-à-dire il y a des empêcheurs, il y a des empêchements de faire, et pourtant on aurait pu le faire et on a peut-être pu déjà le faire. Et puis analyser l'activité, C'est une façon intéressante de voir les choses et ça renvoie à des outils méthodologiques particuliers. C'est aussi une façon de la développer. Et vous avez des démarches comme l'autoconfrontation, que je développerai pas. Mais en gros, c'est l'idée que l'on enregistre image et son, quelqu'un en train de faire, et puis ensuite on visionne devant des pairs et devant la personne elle-même, et s'instaure ce que Yves Coulot appelle des controverses éventuellement, en tout cas des discussions qui permettent de voir des possibles nouveaux, qui permettent de développer justement les possibilités d'agir des personnes. Donc l'analyse de l'activité est aussi, et là on voit le lien avec la professionnalisation peut-être et le développement professionnel, une occasion de se développer. Alors vous avez d'autres travaux, mais bon, j'ai pas été exhaustif, je me suis dit il faut quand même donner à voir une idée d'une variété. Vous avez les travaux développés par Yves Schwartz notamment, je crois qu'il utilise le terme d'ergologie pour signifier un peu ses travaux, où il dit finalement l'activité. Alors il s'intéresse beaucoup à la notion de compétence, mais pas seulement. L'activité, c'est une rencontre à chaque fois singulière entre un individu qui est doté d'un patrimoine, en quelque sorte, c'est son expérience, et puis une situation. La situation, s'accompagnant d'un protocole. Le protocole, c'est le travail prescrit, c'est ce qu'il est bon de faire dans cette situation, et qui nous est transmis ou bien par les pairs, ou bien par les contraintes de la situation, ou bien par notre expérience antérieure. Et lorsqu'il n'y a pas de protocole, ou lorsqu'il faut, comme il dit, renormaliser, c'est-à-dire créer une norme nouvelle d'intervention, eh bien on développe ce qu'il appelle des savoirs investis, c'est-à-dire des façons de faire qui sont très attachées aux situations. On pourrait dire, par exemple, si on s'intéressait à d'autres travaux en psychologie du travail, je pense, en analyse du travail, à ceux de Jacques Leplat, il parlerait de compétences incorporées. Je ne sais pas si vous en avez entendu parler, c'est-à-dire des compétences très attachées aux situations et aux individus, bien entendu, et aux situations particulières dans lesquelles ils ont agi. Vous avez aussi les courants. Alors là, j'ai fait un paquet. Je suis désolé, mais les courants interdisciplinaires de l'action située. Alors, ils renvoient. Vous avez ça. Enfin, ce sont des travaux qui apparaissent dans des champs différents. Et j'ai mis quelques références d'auteurs si ça vous intéresse en bas. L'idée, c'est que globalement, l'activité, elle ne peut se comprendre qu'en se référant à ce qu'on pourrait appeler un mode d'articulation très étroit entre l'individu qui agit, l'individu agissant, et la situation dans laquelle il est. Et je trouve que pour comprendre, en tout cas pour avoir une première clé de compréhension, les travaux de John Lev, notamment, faisant la différence entre l'aréna et le setting. L'aréna étant ce qu'il appelle ce qu'on pourrait appeler le contexte, c'est-à-dire le fait qu'il y a un certain nombre de chaises, de personnes, il y a une luminosité qui est celle qu'elle est, il y a une géométrie de la pièce qui est celle qu'elle est, et vous avez aussi ce qu'il appelle le setting, ce qu'on pourrait traduire, enfin moi je vous propose de traduire comme ça, mais on peut le traduire autrement, la situation, c'est-à-dire comment on perçoit ce contexte. Et on a des modes de perception très différents, et du coup, évidemment, on n'est jamais tout à fait identique d'une situation à l'autre, même d'un contexte à l'autre, même si ce contexte est identique. Et c'est assez proche, finalement, d'une certaine façon, des travaux de l'ergologie. Donc l'idée, c'est, le mot configuration est un mot intéressant, c'est le système d'interdépendance. C'est-à-dire, on fait système, on est interdépendant entre nous, agissant, et le contexte dans lequel on est. Et l'activité ne peut se comprendre qu'en étudiant cette articulation très forte entre les deux. Alors, vous avez aussi, et là je fais peut-être le lien avec la question de la réflexivité dont parlait Françoise tout à l'heure, vous avez le courant qui s'appelle, c'est traduit ainsi, c'est le courant de la science-action. Ce sont les travaux notamment de Chris Argyris, Donald Shun, que vous connaissez sans doute, des travaux anglo-saxons, qui ont été développés à la suite du courant ou des travaux de l'apprentissage, à propos de l'apprentissage expérientiel. L'idée, c'est que c'est une approche très anglo-saxonne, de ce point de vue. C'est que lorsqu'on constate que l'activité d'une personne aboutit à un échec, il dirait une inefficacité, je reprends leur terme, Eh bien, la seule façon de, enfin, il y a plusieurs façons pour revenir à l'efficacité de cette, pour retrouver une efficacité, et qui passe notamment par une prise de recul. Et là, on a tout le courant de l'apprentissage expérientiel qui est derrière, mais pas de, pas de n'importe quelle façon. L'idée, c'est de favoriser ce que les auteurs appellent un recadrage. Et là, on a derrière tout le modèle de la réflexivité, en tout cas une partie des approches de la réflexivité aujourd'hui, et notamment au travers de l'analyse de pratique, c'est comment le fait de proposer à des personnes de parler de ce qu'elles font, en sachant que n'est pas résolue la question du lien entre le discours sur l'action, sur l'activité et l'activité elle-même, mais ça peut être un prétexte pour faire évoluer ces cadres de perception ou susciter des recadrages, si on utilise les termes de ces approches. Vous avez l'autre... Alors, je me suis permis, c'est un peu à la louche, hein, évidemment, c'est pas toujours très simple. Je me suis dit, il y a quand même quelques approches classiques en analyse du travail qui renvoient plus à une épistémologie de type structuraliste, il me semble. Je pense aux travaux. Sans doute que les auteurs ne seraient pas d'accord, totalement d'accord. Et puis, ça peut se discuter, hein. Je pense aux travaux, à certains travaux qui, finalement, c'est une approche assez courante. Voit l'activité comme étant le siège du développement de compétences. Et ces compétences, au fur et à mesure qu'elles sont mises en œuvre, ont tendance à s'incorporer. Et en s'incorporant, elles deviennent des unités élémentaires, en quelque sorte, plus rapidement disponibles pour développer des compétences plus complexes. Donc c'est un modèle un peu hiérarchique, où il y a, d'une certaine façon... une idée de d'une certaine permanence, mais d'une certaine transformation aussi dans la permanence. Vous avez les travaux de la didactique professionnelle. Là encore, il faudrait discuter parce que c'est pas tout à fait vrai. La didactique professionnelle s'intéresse évidemment à... on a souvent tendance, et probablement de façon caricaturale, à dire qu'elle s'intéresse au repérage d'invariants dans l'activité, mais c'est pas tout à fait vrai, parce que de plus en plus, si vous regardez les développements depuis quelques années, elle s'intéresse à l'articulation entre ce qui est invariant et ce qui est singulier. Vous avez les notions de schème. Schème emprunté évidemment aux travaux notamment de Piaget. Hein. Alors vous avez des auteurs, vous avez surtout Pierre Pastré qui a travaillé, mais aussi Patrick Maillet, on pourrait l'indiquer ici, et à la suite des travaux de Gérard Vergniaud, l'idée, le projet de la didactique professionnelle étant d'essayer d'analyser l'activité pour repérer des éléments qu'on peut appeler schème, concept pragmatique, ça dépend des auteurs, qui vont servir d'outils de formation ensuite à ces activités. Donc c'est analyser pour former ensuite. Pas pour développer, enfin ça peut l'être, mais le projet initial, c'est pour former. Alors autre question, outiller l'analyse, c'est aussi choisir le mode d'accès à l'activité. Et ça, ce sont de vrais, enfin ce sont aussi des questions. Bon, on voit bien qu'il y a plusieurs modèles d'analyse, il y a plusieurs modes d'accès différents à l'activité. Par exemple, le matériau. Est-ce qu'on s'intéresse à l'activité ? Et là, il y a des débats, il y a des options différentes selon les. On pourrait croiser avec les modèles d'analyse que j'ai présentés juste avant, sachant que j'ai pas été exhaustif. Est-ce qu'on repère, est-ce qu'on analyse l'activité à partir des discours que les individus tiennent sur ce qu'ils font, en sachant que le discours sûr, on n'est pas toujours tout à fait certain, et on est plutôt certain du contraire, qu'il y ait une relation étroite entre le discours sûr, l'activité et l'activité elle-même. Il y a souvent, pour des raisons d'ordre stratégique, diraient les sociologues, ou d'autres raisons, parfois des décalages. Et puis le discours sûr, c'est une activité à part entière. On pourrait dire c'est une activité sur une autre activité, mais qui a ses logiques propres. Bref, vous avez des travaux et qui vont recueillir des informations sur l'activité via les discours que tiennent les personnes sur ce qu'elles font, et ensuite convoquer un modèle d'analyse particulier. Parmi ceux, mais souvent il y a une cohérence entre le matériau utilisé, modernisé. Par exemple, il est difficile de convoquer les travaux de la clinique de l'activité si on est essentiellement sur un recueil d'informations à propos de l'activité qui repose sur des discours. Enfin, on pourrait en reparler si vous voulez. Ensuite, vous avez l'autre choix, c'est de recueillir l'activité en contexte, c'est-à-dire l'activité au fil de l'eau, j'allais dire, au moment où elle se met en place. Vous avez le choix aussi de combiner les deux, je ne l'ai pas mis là, c'est-à-dire discours sûr et activité en train de se réaliser. Ou alors, repérer ou identifier ou recueillir des traces de l'activité, c'est-à-dire les résultats. Pas les résultats forcément, enfin les traces, on voit bien ce que ça... Ça peut être un compte-rendu, ça peut être des notes, etc. Ou alors une combinaison entre traces, activité, discours sûr, dans le même espace-temps ou pas. Et là, vous avez, je pense que vous pouvez faire le lien avec ce que je disais dans le point précédent. Et puis, autre question qui se pose, c'est est-ce qu'on prend, pour l'analyse, classiquement, on prend classiquement, je pense que vous serez d'accord avec moi, c'est le point de vue du chercheur qui est valorisé, qui est mis en premier, qui est, classiquement, on considère qu'un bon travail de recherche suppose une extériorité forte par rapport à l'objet qu'on étudie. Donc c'est le point de vue du chercheur. Mais est-il utile de s'intéresser, même si on s'intéresse à l'activité en contexte, au point de vue du sujet agissant? Et vous avez du côté des courants de l'action située une position assez précise concernant cette option, évidemment. Donc là encore, vous avez des choix différents. Et puis, je finirai, et je serai parfaitement dans le timing, avec deux, trois questions que j'ai intitulées naïves. Enfin, c'est pas tout à fait naïf, mais ça l'est tout de même un peu. En tout cas, ce sont des questions qu'on peut se poser. Et doit-on se méfier de la subjectivité du sujet, c'est-à-dire du point de vue du sujet sur ce qu'il fait? Ou est-ce que c'est un matériau à recueillir et à analyser en tant que tel? Ou est-ce qu'on le met à l'écart quand on s'intéresse à l'activité? C'est une vraie question. Pas de réponse. On peut avoir des réponses différentes, sans doute. Doit-on se méfier de la subjectivité ou du point de vue, j'aurais peut-être pas dû dire subjectivité, mais point de vue plutôt, d'ailleurs je le reformule ainsi, de celui qui analyse? Et lit-on les mêmes choses? Je pense que la réponse, c'est non, mais je ne sais pas ce que vous en pensez, selon le modèle d'analyse et le mode d'accès à l'activité choisie. C'est bien lit-on, c'est-à-dire caractérise-t-on. Et c'est l'intérêt, je pense, de ces journées aussi que de croiser avec des modèles différents les lectures que l'on fait. Voilà, je vous remercie et je suis juste à l'heure.